Bonjour et bienvenue sur Radio Panique, c'est le 105.4 FM si vous habitez à Bruxelles ou l'internet, le www.radiopanique.org. L'émission s'appelle Drache Musical. Et aujourd'hui une spéciale qui se fera en deux parties, donc aujourd'hui et dans 15 jours, une spéciale rencontre, interview avec le créateur, musicien, compositeur Max Silla. Max Silla de la Martinique. Il a été rencontré à Paris il y a quelques jours. Un entretien réalisé en binôme avec un certain Baptiste, que j'embrasse, bisous. Si vous ne connaissez pas Max Silla, cette émission et la prochaine est faite pour vous. Une introduction sur la flûte des mornes, la flûte en général, la transmission, le patrimoine musical martiniquais, antillais, global. Vous écoutez Drache Musical. C'est une spéciale flûte avec Max Silla. Dans un premier temps, un peu retracer ton histoire, même si tu l'as déjà fait plusieurs fois, mais je pense que c'est un passage obligé pour aussi faire connaître ta musique, te faire connaître toi en tant qu'artiste. Alors, dans un premier temps, est-ce que tu peux rapidement décrire l'instrument que tu as ici, là, sur tes genoux ?
Cet instrument, c'est la flûte traditionnelle des campagnes de Martinique, de conception paysanne. Hein. C'est un instrument de conception paysanne à l'origine. Et qui s'appelle la toutoune bambou dans le langage créole, le langage des mornes. Les mornes, ce sont les montagnes, les hauteurs du pays. Puisque la Martinique, les Antilles en général sont toutes très montagneuses. Donc les mornes, c'est la campagne profonde, c'est en même temps les hauteurs du pays. Et le monde de la paysannerie, où cette flûte a évolué à partir d'inspiration, d'intuition qu'ont eu certaines personnes, hein, certains paysans qui avaient un sens inné de la musique et qui ont, à partir des bambous, et repéré et choisi dans la forêt, ont décidé de manière purement intuitive de se fabriquer des flûtes. Alors, c'est un système de flûte traversière. Et j'emploie bien le terme traversière pour, en dehors des connotations qui ont été faites dans la musique classique. Traversière, les flûtes traversières sont simplement les flûtes qui se jouent dans une tenue traversière. C'est-à-dire, l'instrument, elle est jouée en le mettant au travers de la bouche, devant soi. Et contrairement à la flûte à bec, où il y a un sifflet, il y a un bec, ou les flûtes à biseau. C'est un type de flûte. Alors, il y a une grande famille de flûtes traversières. Et cette flûte traversière, elle est en bambou, et elle a 6 trous, et qu'on bouche avec les doigts, plus le trou de l'embouchure.
We'll be right back.
Est-ce que tu te souviens de du premier jour où tu as rencontré cet instrument-là? Je crois qu'il y a une histoire avec quelqu'un que tu surnommais Missier Bondier.
Ah oui, c'est ça. Oui, c'est un travailleur de des champs de canne à sucre. Puisque j'ai grandi et j'ai passé une grande partie de mon enfance dans les villages des travailleurs de la canne à sucre, qui s'appellent les villages Rue Cazeneigre. Et c'est une rue avec des maisons, des cases de part et d'autre de la rue, et où logeaient les travailleurs de la canne à sucre. Il y avait parmi ces gens, ces travailleurs, un certain monsieur qui était très, très paisible, très serein, très calme, si bien que tout naturellement, tout le monde l'a appelé Monsieur Bondier, ça veut dire Monsieur Bondieu. Assez extraordinaire comme nom. Incroyable, Monsieur Bondier, c'était ça, et si bien que beaucoup de gens ne savaient pas son vrai nom. Tout le monde l'appelait comme ça. Et le soir, au crépuscule, et vers les 17h, il s'adossait à un manguier, au tronc d'un gros manguier qui se trouvait d'un côté de la route. Et il s'adossait et il prenait sa flûte de bambou et il jouait des mélopées comme ça lui venait, spontanément, des airs qui lui venaient comme ça, d'inspiration. Et on était en pleine nature, il jouait comme ça, parce que ce manguier avait une position très favorable, c'était un peu en hauteur, alors on avait une vue qui surplombait légèrement la route, alors les gens qui passaient pouvaient l'entendre jouer, et comme beaucoup de gens, je l'ai entendu jouer, c'est tout. Mais je n'ai pas eu de relation directe avec ce monsieur. Mais j'étais gosse, j'ai entendu cette flûte, et ça m'a séduit, mais sans plus, je n'ai pas manifesté particulièrement, j'ai pas extériorisé des gestes significatifs de l'intérêt que je portais à ces airs que j'entendais, qui jouaient. Voilà. C'est bien plus tard, ça a été dans mon inconscient, c'est bien plus tard que j'ai eu envie de jouer la flûte et j'ai repensé à ce monsieur, j'ai pensé à mon enfance, à ce monsieur qui quelque part m'avait sensibilisé à cette flûte des mornes, que j'ai appelée flûte des mornes bien après, parce qu'en fait c'est la toutoune bambou, ce qui veut dire tube sonore de bambou. C'est une expression créole, toutoune bambou, voilà. C'est comme ça qu'on désigne la désignation locale et paysanne de cette flûte traditionnelle des campagnes de Martinique.
Ok, mais donc c'est comme une sorte de déclic inconscient que tu as eu. Et une fois que tu as commencé à pratiquer la flûte, est-ce que tu es revenu voir cette personne s'il était encore vivant?
Et oui, je l'ai vu. Mais des années avaient passé, donc il était très vieux, parce que j'étais gosse quand je l'ai entendu, et quand j'ai commencé vraiment à valoriser la flûte des mornes, donc c'était les années 50, donc ce monsieur, il n'habitait plus à la Rue Cazeneigre, il avait construit sa maison ailleurs, dans la campagne, donc j'ai pas tellement eu l'occasion de le rencontrer après. À cette époque-là, il n'y avait pas cette conscience de valeur traditionnelle, comme on parle maintenant intellectuellement. C'était des choses qui se vivaient naturellement. C'est un peu comme M. Jourdain, je crois qu'il faisait de la prose sans le savoir. Il parlait et il a appris qu'il faisait de la prose, mais il ne savait pas que ça s'appelait la prose. Mais c'était un peu ça. On vivait les choses naturellement, mais il n'y avait pas de conscience de transmission. C'est chacun qui, par autoréférence, à partir, quand je dis autoréférence, par rapport à un ressenti personnel, avait envie de faire ça ou ça. Mais il n'y avait pas un fil conducteur, une tradition précise, tout au moins par rapport à la flûte. Peut-être que par rapport au tambour, il y avait eu plus de transmission par rapport au belay. Les rythmes traditionnels et tout ça. Peut-être qu'il y avait une transmission plus codifiée, plus consciente.
Et est-ce que tu dirais que maintenant, ou là, depuis plusieurs décennies, il y a une conscience de cette transmission via l'oralité, notamment, qui est beaucoup plus présente qu'à l'époque, là où tu dis que ça n'existait pas.
Bien sûr, parce que c'est pour ça que j'ai reçu, en 1980, début des années 80, le titre de père de la flûte des mornes, parce que justement, j'ai fait un travail de conscientisation de cette flûte, parce que j'ai constaté avec au fil des années, quand j'ai commencé à m'intéresser à la valorisation de cette flûte, ce que j'ai extériorisé en Martinique à partir de 1970, donc ça fait déjà un bail, 1970, eh bien, à partir de ce moment-là, j'ai pris conscience qu'il y avait d'autres flûtistes dans d'autres régions de l'île, toujours à la campagne, en autodidacte, qui pratiquait cette même flûte. C'est extraordinaire. Et dans le sud comme dans le nord de l'île, dans la commune de Rivière-Pilote, par exemple, dans le sud, la campagne de Rivière-Pilote, il y avait un certain monsieur qui s'appelait Tiréchaud. Tiréchaud, c'est-à-dire un réchaud, c'est le truc qu'on fait cuire à manger, c'est le feu.
Ah oui.
Oui, c'est le réchaud. Ouais. Le réchaud, oui. Okay. On l'appelait Tiréchaud parce qu'il était tellement dynamique, il avait le feu dans sa musique. La surnommée Tiréchaud. J'ai découvert ça et c'est parce que j'ai commencé cette valorisation que, parce que j'ai remarqué une chose, c'est qu'il y avait un type d'expression spontanée, mais en même temps d'expression commune de ces différents flûtistes. Et j'ai constaté qu'il y avait un style musical que la nature du pays inspirait spontanément. On a constaté des similitudes rythmiques et mélodiques. Et j'ai compris que cette flûte, il y avait un langage. Quand je dis les traditions, quand on parle d'ethnomusicologie, par exemple, les intellectuels qui ont codifié beaucoup les choses, dans ce qu'on appelle maintenant l'ethnomusicologie, j'ai constaté qu'il y avait un colloque là-dessus sur l'ethnomusicologie. J'y étais, c'était en 1975, et il y avait un grand débat pour te dire à quel moment peut-on dire qu'une musique est traditionnelle ou pas, sur quels critères. C'était très intéressant comme débat.
Et toi, tu as un avis là-dessus ?
Oui, justement, j'ai pris la parole. Je n'étais pas parmi les intervenants officiels, j'étais dans le public. J'étais invité par un ami ethnomusicologue, un professionnel, qui s'appelle Yves de France, qui m'a invité, comme il sait que je pratique une flûte traditionnelle, il m'avait invité à ce colloque. J'ai pris la parole et j'ai dit, au fait, ce qui fait la musique, les caractéristiques des musiques traditionnelles, c'est que ce sont des musiques qui ont évolué, qui ont émergé à une époque et dans des lieux où l'humanité de l'époque était en intime relation avec la nature. Et c'est cette relation, il y a une sorte de syncrétisme, d'alchimie qui se crée dans l'inconscient, dans le conscient et l'inconscient à la fois, entre l'environnement, la nature et le musicien, qui fait que ça va inspirer un type d'expression et ça fait partie de l'aspect subjectif de l'art d'ailleurs. Ce qui prouve que l'art au départ prend ses racines dans l'inspiration. C'est une inspiration intérieure et l'inspiration elle-même, c'est l'expression d'un état d'âme, de sentiments ressentis par rapport à non seulement la nature, mais aussi l'histoire du peuple en question. Il y a deux aspects. il y a le vécu, l'histoire du peuple en question, et la nature qui se conjuguent. Et ça donne quelque chose de très naturel. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit, ça parle spontanément aux gens, parce que chacun se retrouve là-dedans. C'est ça. Et je pense que c'est ça le terme de la musique, des références traditionnelles. Et puis après, il y a une transmission, parce qu'il y a une reconnaissance spontanée. Ce n'est pas des choses qu'on impose. Ça se fait naturellement, parce que tout le monde s'y retrouve. Il y a un écho de chacun par rapport à ça. Et donc, c'est à partir de ça qu'il y a les différentes spécificités d'expression des différentes régions du monde, toutes les régions. On parle de la polyphonie corse, la musique celtique en Bretagne, etc. Et chaque région, j'ai entendu il n'y a pas longtemps les Tyroliennes, j'étais agréablement surpris d'entendre la musique des Tyroliennes, et je ne pensais pas qu'en Europe, il y avait des musiques aussi joyeuses, des expressions musicales aussi joyeuses. Et tout ça, ce sont des musiques traditionnelles. Et une des caractéristiques les fondamentales des musiques traditionnelles, c'est le côté vivant, justement, qu'on dit chacun s'y retrouve, parce que ça nous interpelle dans nos tripes, dans notre âme, dans nos cœurs, dans notre corps. Ça nous parle. Au fait, on parle de ressenti. Là, on repose énormément sur le ressenti qui est subjectif, et ce n'est qu'après que l'aspect objectif intervient, l'aspect objectif qui fait que on va structurer mieux les choses, on va donner une forme structurée à partir de l'inspiration qu'on reçoit. Il y a une sorte d'esthétique, on va travailler une certaine esthétique, mais la base, c'est l'inspiration. La ronde des écoliers, où j'évoque mon enfance. We'll be right back.
écoutez Radio Panique, l'émission s'appelle Drache Musicale. C'est une rencontre interview avec Max Silla, le compositeur flûtiste d'origine martiniquaise. Et on va faire une petite pause dans cette rencontre interview avec deux morceaux de flûte, de bambou en bambou. Let's go.
Toujours qu'à dire où c'est un gauchiste. Là, si même, m'en ni 50 moules pour commander moins. Fais ça comme ça, pas fais ça comme ça. Jeudi, vendredi, moi pas qu'à ouais personne. Pas moins l'argent moins. Et t'y a passé,
ouais.
Et t'y a serré,
ouais.
Moi pas qu'à ouais yo,
ouais.
Yo allez écouter, plaque attaque. Yo pas ça prononcer,
ouais.
Yo qu'a dit plaque attaque,
ouais.
C'est pas plaque attaque,
ouais.
C'est pas qu'à attaque. Yo pas ça prononcer,
ouais.
Yo qu'a dit plaque attaque,
ouais.
C'est pas plaque attaque,
ouais.
C'est pas qu'à attaque. Pas qu'à taxer, boy, pas qu'à taxer, 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 oui, pas qu'à taxer, 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 prononcez, pas qu'à taxer, prononcez, pas qu'à taxer.
La suite de cette interview avec Max Silla sur la fabrication de la flûte, son arrivée puis retour en Martinique. Quelques questions techniques par Baptiste. Vous écoutez Radio Panique sur le 105.4 FM ou www.radiopanique.org. L'émission s'appelle Drache Mumu. Sur la fabrication de la flûte en elle-même, est-ce que vous êtes inspiré d'autres flûtes et quel est le processus de fabrication de cette flûte en bambou là que vous tenez sur vos genoux?
Au départ, les flûtistes de la campagne, ils prenaient un bambou, ils faisaient l'embouchure, le trou de l'embouchure, et puis ils posaient leurs doigts, les six doigts du milieu de la main, les trois doigts du milieu de chaque main, index, majeur, annulaire, et puis ils perçaient les six trous. Et à partir de ça, ils cherchaient les sons, ils essayaient la gamme un peu à leur manière, tant bien que mal. Et oui, c'est pas mal parce qu'il y en a des autodidactes comme Thierry Chaud qui a fait des choses extraordinaires, musicalement parlant.
Et vous aussi.
Tout en étant autodidacte. Non. Oui, oui, moi aussi, mais j'ai quand même, je suis un peu le pont entre ceux-là et le classique, la musique, je pourrais dire, plus élaborée, parce que j'ai quand même pris des cours après à Saint-Germain-des-Prés. J'ai pris des cours à l'association philotechnique, des cours du soir.
Des cours de fabrication?
Non, théorie musicale.
Okay.
J'ai pris des cours de théorie musicale pour apprendre la structure des gammes, les tonalités avec les dièses, les tonalités avec les bémols, etc. La structure d'une gamme majeure, la structure d'une gamme mineure. Bon, j'ai quand même des bases de théorie musicale. Et puis la lecture des notes sur la portée, la clé de sol, etc. Bon, j'ai pas étudié les autres clés, hein, je suis resté à la clé de sol, c'est déjà pas mal. Oui. Et donc, voilà, j'ai quand même un peu une base, on pourrait dire, classique. Mais j'ai commencé, mes tout débuts, c'était totalement en autodidacte. C'est, quand j'ai commencé mes premiers essais, c'était comme les autres gars de la campagne, hein, c'est sûr. J'ai commencé à faire mes flûtes, j'étais adolescent, dès l'âge de 15 ans, j'ai commencé à bricoler, comme on dit, mes flûtes. Et puis après, c'est quand je suis arrivé en France, à Paris, c'est là que c'est difficile de faire des raccourcis, parce que j'ai quitté la Martinique à l'âge de 19 ans. J'étais à 2 mois de mes 20 ans, hein, donc... Et pour apprendre le métier, la mécanique de précision, j'ai fait un stage de FPA, formation professionnelle des adultes, dans le Pas-de-Calais. Alors, je vous assure que ce n'était pas la joie, climatiquement parlant.
Oui, je peux comprendre. Mais nous, on vient de Bruxelles, donc on est un peu habitué à ce genre de climat.
Ça. Mais moi qui revenais de la Martinique, ça m'a fait drôle, des moins 17, ouais, ça faisait drôle. Mais j'y suis resté 6 mois quand même. Et puis c'est quand je suis arrivé à Paris, j'ai eu mon CAP et puis j'ai travaillé pour gagner ma vie. Mais quand je suis arrivé à Paris, en 66, j'avais donc 22 ans, c'est là que j'ai découvert les autres musiques traditionnelles d'Amérique du Sud, de la Cordillère des Andes. Il y avait un club de musique très, très mythique qui s'appelait l'Escale, Oui, Monsieur le Prince, au 15 rue Monsieur le Prince, dans le quartier latin, au métro Odéon. Et c'était un club, il y avait un orchestre cubain qui jouait à la cave. Il y avait une cave et des musiciens cubains qui jouaient à la cave. Et le rez-de-chaussée, c'était une sorte de bar à musique où il y avait des groupes, des différents groupes de musique, chanteurs et instrumentistes du continent sud-américain, de culture hispanique. C'est-à-dire Pérou, Bolivie, Chili et Venezuela, etc. Et des artistes, il y avait la harpe indienne, le shakuhachi et le charango, la petite guitare en carapace de tatou qui s'appelle le charango, le charango, et les guitares quattro, les petites guitares aussi vénézuéliennes, le quattro. Et puis il y avait des super flûtistes de la Cordillère des Andes qui jouaient la quena. Et c'était en 74, là, il y a eu... Après, bon, j'ai entendu, début, fin des années 60, donc j'ai entendu ces musiques. Et puis en 74, quand il y a eu les problèmes politiques au Chili, il y a eu le groupe Culapayum, non comme ça, et Los Calchaquis, qui est venu, et avec différentes flûtes, ils avaient des flûtes de pan, des flûtes et des quenas, des flûtes de pan, différents instruments traditionnels. Et c'était presque une mode dans ces années 70 en France de ces musiques andines. Il y avait le thème très connu de El Condor Pasa. Donc il y avait tout un répertoire comme ça, des Andes, qui m'ont vraiment séduit. Et je me suis dit, c'est formidable, ces musiciens, ils jouent avec leur instrument traditionnel. Et c'est là que j'ai eu un sursaut de revendication de cette flûte des mondes qui était restée dans nos campagnes à Martinique, mais qui n'était pas reconnue officiellement par la société martiniquaise. Et j'ai décidé de retourner en Martinique, d'abord faire des recherches pour mieux, on pourrait dire, normaliser cette flûte dans des critères de fabrication très précises, très rigoureuses. Et je me suis attelé pendant plusieurs années à faire ce travail. Je suis retourné en 1970 pour mener campagne, pour valoriser cette flûte traditionnelle et des mornes. Et donc j'ai contribué à la faire reconnaître par la société citadine martiniquaise et à la mettre sur la scène, sur les scènes musicales officielles. Et j'ai rencontré à ce moment-là Eugène Bonnat, qui est lui, et c'est un... À l'époque, en 70, j'avais... En 70, 26 ans. Et j'ai rencontré Eugène Bonnat, qui c'est un jeune de mon âge, et qui était resté en Martinique, lui, qui n'avait pas bougé encore comme moi, et qui pratiquait cette flûte. Et j'ai vu qu'il avait des aptitudes, qu'il était très doué, il pratiquait cette flûte de bambou, et puis non seulement il la jouait, mais il composait aussi des airs avec des chansons, des textes et tout ça. Il était assez engagé dans cette valorisation de la musique des mornes, la musique d'expression paysanne et de tradition orale. J'insiste beaucoup sur le caractère oral.
Les grandes personnes parlaient, va rencontrer ta cousine, laisse beaucoup sortir en air, vous allez couler en pied.
Maman m'a dit, y'a pas moi qui dit pas parler, moi maillé, oh oh. Si je vais m'en toucher, quand tu m'as dit, y'a pas moi ni t'y gagne, moi, oh oh. Si ma sortie m'a encore, pourquoi pas tout pas moi loger comme moi, oh oh. La clé m'a la même, personne pas qu'à dire, moi y'a là où sorti, oh oh. Maman m'a dit,
allez nous voir, allez nous voir. Michel Mario,
Mamma
Mamma Mamma Mamma Mamma
Mamma
Mamma Mamma Mamma
Mamma Mamma Mamma Mamma
Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma
Mamma
Mamma Mamma
Mamma Mamma
Mamma Mamma Mamma Mamma
Mamma Mamma Mamma
Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mamma Mais des wok qui soient jolis, mais pas pour voter ces noms blancs. C'est autres même qui cachent chercher, et après les autres qui appellent.
Maman m'a dit, y'a pas moi qui dit pas parler, moi maillé, oh oh. Si jamais m'a touché, pour que ma vie est à fond, moi n'y t'y gagne, moi. Si m'a senti manquant, pour que tout pas tout pas, moi longe comme moi, oh oh. La clé m'a la même, moi, fait tout à qu'à dire, moi y'a y'a là où sorti. Maman m'a dit,
allez nous voir, allez nous voir.
Maman m'a
Maman m'a dit comme ça, pas pour être floriti. Plus ou simple, c'est plus ou bon. Ils a fait faire chibé ou pas besoin raser souci ou pour matcher bien en crayon. À Saint-Jean, le ou pas levé, mais c'est là pour belle femme blanche.
Maman m'a dit, y'a pas moi qui dit pas parler, moi maillé. Oh, oh. Si jamais m'a touché, moi tout m'a crié, y'a pas moi ni t'y gagne, moi.
Faut pas faire n'importe quoi. Ma maman m'a dit comme ça. Faut qu'un jour prends Marie. Faut que l'homme l'en sorti en caille là. Ni en femme qui responsable. C'est pas mannequin qui t'est cherché. Mais en femme pour épauler. Ni laver ni repasser. C'est pas un snack qui a mangé.
Ma maman m'a dit, y'a pas moi qui dit pas parler, maman.
Si jamais m'a touché, mon son marié y'a pas que mon nid de gaille moi. Si mon sentiment comme, quand tout pas tout pas que mon loge comme moi. La clé m'a la même moi, ton baka dit moi y'a y'a là où sorti. Ma maman m'a dit,
y'a le vin, y'a le vin.
Ma maman m'a dit,
y'a le vin, y'a le vin.
Ma maman m'a dit,
où le vin, où le vin.
Ma maman m'a dit,
Michel Mario.
Ma maman m'a dit.
Vous en avez dit, vous avez dit, vous
avez
dit,
vous
avez dit,
vous
avez dit,
vous
avez dit,
vous
avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez
Et donc, je l'ai encouragé parce qu'il n'était pas compris. Et c'est de là qu'il y a eu un processus on pourrait dire, de campagne culturelle, musicale, pour valoriser cette musique des mornes, des campagnes, dont les rythmes de base, c'est le belay, le grand belay, la calenda, etc. Et voilà, en gros, c'est ça l'histoire. Mais parallèlement, il faut dire, à Cuba, en fréquentant l'Escale, ce même club que j'ai commencé à fréquenter à partir des années fin 1966, il faut dire que j'ai rencontré la flûte cubaine. Il y a deux flûtistes cubains qui jouaient cette flûte qui a été valorisée par les Cubains, le traverso classique européen. Les Cubains ont revisité ce traverso classique européen, qui est une flûte traversière en bois à cinq clés, qui est la flûte fin 18e, 19e siècle, qui a été amenée à Cuba. Et les Cubains ont développé une musique à partir de cette flûte classique européenne. La plupart du temps, c'était les flûtes françaises qu'ils utilisaient, de facture française. Et donc, les Cubains qui jouaient à l'Escale, à la cave, comme je vous disais tout à l'heure, il y avait deux flûtistes, Clemente Lozano et Gonzalo Fernandez, qui étaient d'excellents flûtistes, qui sont d'excellents flûtistes cubains, que j'ai entendu jouer. Donc, j'ai étudié aussi cette flûte à cinq clés, baroque, l'évolution de la flûte baroque, qu'on appelle le traverso en France. Et ça m'a aidé dans mes recherches sur la fabrication, la normalisation de la fabrication de la flûte des mornes. Parce que la base est la même. La base, c'est six trous sur la flûte baroque, la flûte, le traverso français, classique français. La base, c'est six trous plus cinq clés pour faire les demi-tons. En gros, c'est ça la base de mon parcours. Et puis après, j'ai eu bien sûr l'inspiration musicale de création. Ça, c'est autre chose.
J'avais peut-être une question d'ordre très technique en tant que musicien. Je suis clarinettiste et saxophoniste. Et j'ai été très touché, comme vous dites, par cette authenticité très proche de la nature de votre musique que j'ai découvert malheureusement un peu tard. Et je me pose la question de votre flûte techniquement. Est-ce qu'elle est diatonique? Combien d'octaves elle a?
Elle est diatonique. Elle fait deux octaves, une quinte. J'ai monté la gamme de mi bémol. Et puis j'ai fait dans des tonalités différentes. Parce que comme il n'y a pas de clé, on ne peut pas jouer avec une même flûte, on ne peut pas jouer dans toutes les tonalités. C'est ce qui explique les changements de flûte. Pour faire un choix de tonalité de flûte approprié au thème qu'on va interpréter. Celle-là est en mi bémol. Alors j'ai monté la gamme de mi bémol. deux octaves et une quinte.
Dès la deuxième octave, les doigtés changent légèrement.
Surtout la troisième, ça change beaucoup. Hein. Ouais, la troisième octave surtout. Ouais. Oui, tout à fait. Donc il y a donc, si vous êtes instrumentiste, instrument avant, vous savez, c'est une question de pression aussi du souffle. Et il y a une combinaison entre la pression du changement de pression du souffle, la manière de souffler et la position de choix du doigté, la position des doigts. Ah oui, c'est sûr.
Excellent. On touche à la fin de cette première partie de rencontre interview avec Max Silla, une spéciale flûte. Il y aura une deuxième partie, mais juste avant ça, un merci, un grand merci à tout d'abord à Max Silla, son entourage également. Le Point Fort à Aubervilliers de nous avoir accueillis, Baptiste, et tous ceux qui nous suivent et qui suivent Drache Musicale. Un tout dernier bonus, et rendez-vous dans 15 jours pour la deuxième partie de ce spécial flûte avec Max Silla. Pour revenir à ce qu'on va vivre ce soir il y a le concert au Point Fort à Aubervilliers dans le cadre d'un festival qui s'appelle Ville des Musiques du Monde. Vous produisez et juste après il y a Daniel Waro. Est-ce qu'il y a une relation entre vous et l'île de la Réunion, l'océan Indien plus globalement, et aussi précisément, est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues avec Daniel Waro, ou est-ce qu'il y a déjà eu des collaborations ou non qui ont déjà été réalisées?
Et non, je connais Daniel Waro de réputation, de sa renommée, son talent musical de chanteur et de poète et de militant, tout ça à la fois, et de percussionniste aussi, parce que j'apprécie beaucoup l'accompagnement rythmique de ses compositions, de ses musiques, de ses chants. Pour moi, c'est important, cette rencontre qui va se faire aujourd'hui. J'ai pas souvenir de l'avoir rencontré déjà. Et donc, ce festival Ville des Musiques du Monde qui a lieu à Aubervilliers à ce jour, eh bien, c'est très important. Pour moi, c'est très important. Je vais jouer certains de mes classiques et puis je joue aussi avec un autre aspect, des musiques traditionnelles. C'est avec le Ali Bulo Santo Sissoko, qui représente la kora sénégalaise et le chant mandingue, la culture mandingue. Et nous avons beaucoup d'affinités musicales. J'ai plaisir à jouer, on a plaisir l'un et l'autre à jouer ensemble. Et Daniel Waro, je souhaite pouvoir faire quelque chose avec lui parce que j'aime beaucoup sa musique, j'aime beaucoup ce qu'il fait et les valeurs qu'il défend.
Rendez-vous dans 15 jours pour la deuxième partie de cette interview avec la légende Max Silla. Vous écoutez Radio Panique sur le 105.4 FM à Bruxelles et le www.radiopanique.org.